Bonjour à tous. Comme vous avez vu dans le programme, l'accueil commence à 8h moins le quart, à 9h moins le quart plutôt. Donc on va faire, je vais être très 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 rapide. D'abord, je vous remercie tous d'être là et comme je l'ai dit à plusieurs d'entre vous, je suis vraiment très contente et je pense que Pierre aussi, qui a l'initiative de cette journée, on est vraiment très très contente de retrouver des visages et certainement des paroles dans la journée aussi qui accompagneront ces visages. Alors ici vous êtes à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme de Paris et à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. C'est la fondation qui vous accueille parce que j'ai fait passer l'idée qu'il fallait qu'ici on monte une plateforme sur la recherche sur l'éducation. Alors qu'est-ce qu'on entend par plateforme? En fait, une plateforme, c'est un ensemble d'actions sur une thématique précise. Et ces actions alors, peuvent regrouper des groupements d'intérêts scientifiques, des séminaires internationaux, des séminaires aussi thématiques. Alors évidemment, la recherche qui est concernée n'est pas l'ensemble de la recherche sur l'éducation qui serait bien trop vaste. Hein. On est vraiment sur la thématique innovation, industrialisation, éducation qui va nous rassembler ces deux jours. La première journée est plus spécialement consacrée à l'anthologie, c'est Pierre qui vous présentera les grands objectifs de la journée, comment on vous propose de structurer la discussion autour de cette anthologie. Et demain, nous avons une journée de travail autour d'un texte qu'on a rédigé à plusieurs, un texte qui émane au départ des membres du CIF et qui vise à imaginer et à installer peut-être un groupement d'intérêts scientifiques autour de ces thématiques. J'en reparlerai demain. Là, nous allons être dans cette salle toute la journée. Ce midi, on a un buffet qui sera proposé devant l'amphithéâtre. Vous pourrez quand même aller à l'air et prendre l'air dans un peu dans le hall. Et puis, même si l'air est un peu pollué sur devant le bâtiment. Et puis demain, on aura une autre organisation que je présenterai en temps et en heure. Je vais passer la parole à Pierre et encore une fois, merci à tous.
Alors en fait, nous avons deux micros, celui-ci qui ne marche pas encore, mais qui va sonoriser la salle, et celui-ci qui ne sert à rien pour vous, mais qui sert en fait à enregistrer nos débats. On aura d'ailleurs l'occasion de vous expliquer tout à l'heure la raison pour laquelle nous souhaitons justement que ces débats soient enregistrés. Alors, Françoise vient de commettre une première erreur. Ce n'est pas moi qui suis à l'initiative de cette journée, c'est un collectif qui s'appelle le CIF, Séminaire Industrialisation de la Formation, composé d'une quinzaine de personnes actuellement, qui s'est d'ailleurs renouvelé depuis longtemps, j'y reviendrai. Et c'est ce collectif qui est à l'origine de l'anthologie sur laquelle nous allons parler aujourd'hui, et c'est aussi lui qui est à l'origine de cette manifestation. Donc au nom du CIF, je voudrais d'abord commencer par remercier les animateurs et les intervenants des quatre tables rondes que nous allons avoir. Je voudrais les remercier chaleureusement. Un certain nombre d'entre eux viennent de loin, de très loin, parfois même de l'étranger. Et pour nous, c'est extrêmement précieux, j'y reviendrai, d'avoir des avis extérieurs par rapport à notre travail. Je voudrais aussi remercier la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, dont Françoise est directrice adjointe et membre du directoire, et rappeler que en 1963, Fernand Braudel avait, en vue d'un travail énorme sur la Méditerranée à l'âge classique, une perspective qui, mutatis mutandis, c'est un peu la nôtre aujourd'hui. c'est-à-dire rassembler sur un thème assez large des spécialistes d'orientation, de disciplines et d'approches différentes. Et nous sommes bien ici, dans cette fondation Maison des sciences de l'homme, et de façon plus générale d'ailleurs, dans l'esprit des maisons des sciences de l'homme, qui consiste précisément à croiser sur des objets communs des perspectives différentes, pluridisciplinaires, éventuellement même d'ailleurs des interrogations sur chacune des disciplines concernées en retour interdisciplinaires. Je voudrais profiter de l'occasion et du fait qu'il n'est pas là pour remercier Bastien Louessard qui a été l'artisan et la cheville ouvrière de l'organisation de cette manifestation. Puis enfin, je voudrais vous remercier vous-même d'être présent ici. Et d'être présent pour un exercice qui est un peu inhabituel, car nous n'allons avoir ni un colloque, ni non plus vraiment un séminaire, mais plutôt une sorte de... Voilà le micro qui se déclenche. Je profite aussi pour remercier le personnel de l'AMSH. Une sorte de manifestation dans laquelle va s'exercer notre brainstorming, en quelque sorte, sur cet ouvrage qui s'appelle donc Industrialiser l'éducation, anthologie commentée, qui a été publié en septembre dernier et dont nous allons, si vous le voulez bien, essayer d'analyser un certain nombre des points de vue qu'il défend. Dans cette perspective, notre journée sera organisée autour de trois points, trois grandes orientations, si vous voulez, enfin plus exactement quatre grandes orientations qui correspondront aux quatre tables rondes. Et moi, je voudrais vous donner une idée de ce que nous pourrions faire au cours de ces différentes tables rondes. Ce que nous espérons de cette journée, comment le projet de l'anthologie est né et enfin, très concrètement, comment vont s'organiser les différentes tables rondes. Alors, ce que nous attendons de cette journée, c'est trois choses. D'abord, faire connaître ce travail important que le CIF a organisé autour de l'anthologie. Ensuite, mettre en discussion ces thèses, ce qui veut dire que nous ne défendrons pas notre projet. Nous ne sommes pas là pour nous faire les avocats de quelque chose qui a été suffisamment développé pour qu'il ne soit pas utile d'y revenir. En revanche, nous sommes ici pour vous écouter vos réactions à ce projet. Et puis, plus concrètement, troisièmement, essayer d'élargir le cercle de ceux qui pourraient être intéressés, qui pourront être intéressés par cette problématique. Essayer de vous y intéresser vous-même et en particulier de faire en sorte que ce travail puisse se continuer. Nous aurons l'occasion dans la journée d'en reparler, mais un site, un carnet de recherche pour le CIF va être organisé. Sur ce carnet de recherche vont assez rapidement se trouver les textes commentés, les 21 textes commentés de l'anthologie. Et notre rêve serait que parmi vous se trouvent des auteurs qui accepteraient de choisir d'autres textes, de se conformer grosso modo au format que nous avons adopté, et d'ajouter en quelque sorte sur ce site qui deviendrait du même coup dynamique une anthologie beaucoup plus large des textes sur l'industrialisation de l'éducation et de la formation. Comment cette idée de l'anthologie est-elle née? Elle a été portée par le séminaire Industrialisation de la formation, et ici je fais référence à Elisabeth Fichet qui avec moi a pris l'initiative de ce séminaire. C'était en 91, tu t'en souviens Elisabeth? Et à l'époque, nous étions frappés par le fait que la dimension industrielle de l'éducation n'était pratiquement jamais évoquée dans les travaux que nous connaissions. Je ne sais pas ce qu'il en est pour Elisabeth, qui aura sans doute l'occasion dans la journée de le dire, mais pour ce qui me concerne, cette sensibilisation aux questions industrielles me venait d'un doctorat que j'avais fait sous la responsabilité de Bernard Miège, et qui se situait précisément dans le domaine des industries culturelles. Et mon étonnement était que ce qui valait pour la culture, c'est-à-dire cette réflexion engagée de très longue date sur les modalités et les processus d'industrialisation de la culture, de l'information, de la communication, tout cela ne s'était pas produit ou ne se produisait pas pour l'éducation. Cette lacune, en quelque sorte, nous interpellait. Et je me rappelle que nous n'étions pas les seuls à être interpellés, puisque un certain nombre de collègues, très vite, sont venus se joindre à notre groupe et nous avons donc constitué le séminaire. Je me souviens aussi que un ou deux ans après la constitution de ce séminaire, nous avions eu l'occasion de le présenter à un petit groupe de collègues. Et le recteur de l'Académie de Lille était là et il avait dit, je ne sais pas si tu t'en souviens, Elisabeth, il avait employé un gros mot, mais c'est séminaire industrialisation de la formation, mais c'est un oxymore. Et c'est cet oxymore que nous avons précisément essayé d'étudier. Nous nous sommes intéressés à cette question parce que nous nous rendions compte que la référence aux impératifs du rendement de l'éducation ou de la formation, que la référence aux notions de capital humain et du rôle que l'éducation doit jouer dans l'enrichissement de ce capital humain était présente malgré tout, mais jamais référée à la notion d'industrialisation. De la même façon, nous nous rendions compte que favorable ou défavorable au mouvement qui s'engageait, les universités et même certains établissements d'enseignement secondaire, a fortiori les organismes de formation continue, étaient engagés dans des processus qui visaient à les soumettre à un modèle de type entrepreneurial. Et toutes ces préoccupations-là, évidemment, renforçaient notre intérêt de regarder ce que voulait dire la référence à l'entreprise. Et puis nous nous rendions compte aussi, un certain nombre d'autres collègues étaient particulièrement sensibilisés à la chose, nous nous rendions compte aussi que l'introduction de dispositifs techniques tendait d'une façon ou d'une autre à intensifier des processus de mécanisation qui nous paraissaient eux aussi à mettre sur le compte d'un processus d'industrialisation. Donc, nous nous sommes constitués en groupe de recherche et nous avons fait tout un ensemble de travaux dont je pense que deux grandes étapes inaugurales ont été d'une part un colloque que Elisabeth avait organisé à Lille, qui avait été, pas tout seul non plus, avec le CIF, oui bien sûr. C'est moi qui fais l'erreur, voilà. C'est contagieux. Et un colloque dont les actes ont été publiés sur la notion de bien éducatif. Et cette idée de bien éducatif à travers la référence au bien culturel nous paraissait intéressante pour entrer sur la question de l'industrialisation. L'autre étape importante qui a d'une certaine façon ouvert le cycle qui d'une certaine manière se referme avec notre ouvrage paru en septembre dernier, c'était un ouvrage collectif sur l'industrialisation de l'éducation et que nous avions intitulé, enfin sous-titré de façon un peu prétentieuse, État de la question. En fait, nous commencions à explorer la question et nous essayions d'en faire un état. Entre-temps, toute une série de travaux, et je ne peux pas les mentionner, des dizaines et des dizaines de publications, des ouvrages, des colloques, des journées d'études, sur des thèmes tels que, par exemple, la notion d'autonomie. Cette idée d'autonomie, souvent présentée comme contradictoire avec la notion d'industrialisation, nous paraissait au contraire supporter, développer, aider à encourager un processus d'industrialisation, mais pas une industrialisation taylorienne, bien sûr. Aussi sur les pratiques de formation et des nouveaux lieux de formation. Aussi sur la territorialisation des politiques éducatives, sur l'internationalisation des stratégies éducatives et sur la constitution d'un marché à l'échelle internationale. Gaëtan avait contribué à un numéro de Distance et médiation des savoirs qui portait sur cette question. Mais évidemment, toutes ces questions nous ont, d'un point de vue méthodologique, alerté sur la difficulté de faire le partage entre deux éléments différents. Le premier qui est les discours, les projets, les intentions, et le second qui est les pratiques, la réalité. Et on peut dire que pendant une vingtaine d'années, nous avons en permanence cherché à mettre en relation les projets et les discours d'une part, et d'autre part, les réalités de l'industrialisation. Y sommes-nous arrivés ? C'est pas à nous de décider et d'en juger, mais ce à quoi nous sommes arrivés, en tout cas, et ça je peux le dire, c'est au principe selon lequel il nous fallait maintenant faire retour, en quelque sorte, aux grands auteurs qui avaient essayé de penser la question de l'industrialisation. Et de ce point de vue-là, nous avons décidé d'examiner un siècle de production, plus ou moins scientifiques. Au départ, c'était uniquement des productions scientifiques, et puis nous avons un peu élargi notre champ, aussi des productions d'expertise, sur cette question de l'industrialisation. Donc, commençant en 1913 et finissant en 2012. Je voudrais dire que d'ailleurs, nous aurions pu, si nous l'avions souhaité, mais nous n'avions pas assez de place pour le faire, nous aurions pu faire remonter la question de l'industrialisation un peu avant. Par exemple, dès 1820, autour de l'enseignement mutuel, c'est-à-dire cette forme d'enseignement que ses protagonistes ou que ses promoteurs appelaient déjà industriel, il y avait des prémices d'une industrialisation de l'éducation, avec un maître qui enseignait, enfin qui donnait ses consignes à une vingtaine de contre-maîtres, lesquels, chacun dans son coin, allait voir une vingtaine ou une trentaine d'élèves, moyennant quoi on pouvait enseigner à 2000 élèves, ce qui s'est fait. Jules Verne, dans Paris au XXe siècle, consacre tout un chapitre de façon anticipée à l'éducation comme il la voit, et c'est typiquement, alors non plus 2000 personnes, mais c'est 20 000 personnes auxquelles on enseigne d'un seul coup. Donc on est bien dans un processus d'industrialisation. Il y avait aussi les travaux de Saint-Simon, très importants, sur justement le développement d'une éducation à vaste échelle, et aussi les travaux des penseurs socialistes, Marx et d'autres, sur précisément l'association entre une éducation devenue industrielle et le progrès humain. Et puis bien sûr, il y avait tout le travail sur les machines à enseigner. Nous avons fait porter une série de recherches sur l'histoire de la machine à enseigner, sachant que la première a vu le jour au tout début du 19e siècle, et la dernière, sous forme de machine non informatique, a été conçue par Skinner dans les années 50. Donc, plus d'un siècle et demi de machines à enseigner, avec notamment l'investissement, l'engagement très fort de quelqu'un comme Edison, qui croyait à la machine à enseigner, et qui, ayant été déçu, comme il a été déçu par d'autres de ses innovations, décide de se retirer sous sa tente, puisque visiblement, c'est le mot qu'il emploie dans son journal, puisque visiblement ça ne marche pas. Voilà donc en quelque sorte ce qui nous a conduit à cette anthologie et à ce siècle de travaux sur l'industrialisation de l'information. Dernier point, et j'en aurai fini avec cette introduction, comment avons-nous pensé collectivement cette journée ? Nous avons pensé, avec le recul que nous donnaient les 4 ou 5 ans de travail sur cet objet, nous avons pensé que nous développions dans ce livre un certain nombre de thèses, et que c'est à la lumière de ces thèses que nous lisions les auteurs que nous avons cités. Parmi ces thèses, nous en avons retenu 4. Il y en a d'autres que nous aurions pu évoquer, mais 4 de ces thèses nous semblent pouvoir faire aujourd'hui l'objet de nos échanges. La première thèse, c'est que ça sera l'objet de la première table ronde. La première thèse, c'est qu'un cadre théorique à peu près homogène et cohérent peut aider à appréhender les phénomènes d'industrialisation. Alors, la question concrète qui est posée, c'est celle de l'utilité heuristique d'une grille de lecture industrielle appliquée aux phénomènes d'éducation, mais on y reviendra tout à l'heure, donc je ne développe pas. La deuxième thèse, que Yolande Combès et Laurent Petit présenteront plus en détail pour la deuxième table ronde, c'est celle selon laquelle, autour d'une matrice commune, qui est l'industrialisation de l'éducation, se structure toute une série de modalités industrielles très différentes. Depuis, en gros, une industrialisation pré-taylorienne, jusqu'à une néo- ou post-industrialisation, mais qui n'en reste pas moins un processus d'industrialisation. Et la question est évidemment celle de savoir comment ces différentes formes sont nées les unes après les autres et comment elles s'articulent les unes par rapport aux autres de façon sédimentée. La troisième thèse qui nous est apparue et qui fera l'objet de la table ronde animée par Claude Debon et Didier Paquelin, si du moins Didier a pu nous rejoindre, il vient lui-même de Québec. Vous auriez dû aller dans le même avion, comme ça on serait sûr qu'il est là. Cette thèse-là est celle que la professionnalisation des fonctions d'enseignants et de l'ensemble des acteurs associés à l'enseignement et à la formation, n'est pas, que cette professionnalisation n'est pas, comme c'est souvent dit, un obstacle à l'industrialisation, mais qu'elle peut aussi être un vecteur de l'industrialisation. Autrement dit, qu'en se professionnalisant, des responsables, des acteurs de l'éducation, contribuent à son industrialisation. La question sera de savoir selon quelles modalités et avec quels enjeux. Enfin, la dernière de ces thèses, qui elle aussi est, comme les trois précédentes, un peu contre-intuitive, est que, contrairement à ce que l'on entend dire parfois, l'instance publique, c'est-à-dire l'État d'abord, puis ensuite l'État, les régions, les villes, etc., que l'instance publique n'est pas un adversaire de l'industrialisation, n'est pas une sorte d'obstacle au développement de processus industriels dans l'éducation, mais qu'elle en est au contraire le principal vecteur. Que toute l'histoire de l'industrialisation est l'histoire de la volonté des pouvoirs publics d'industrialiser, pour tout un ensemble de raisons qui seront examinées évidemment au cours de la table ronde, mais d'industrialiser l'éducation. Et qu'au contraire, d'ailleurs, un certain nombre d'entreprises privées ne sont pas forcément favorables à cette industrialisation. Autrement dit, paradoxalement, ce n'est pas du privé qu'on doit forcément attendre l'industrialisation, mais au contraire du public. Ces thèses seront donc débattues par toute une série de collègues, y compris vous-même qui êtes là, et en cercle concentrique en quelque sorte. Des représentants de l'anthologie d'abord, des commentateurs de cette anthologie, un ou deux discutants, et puis enfin des échanges collectifs. Ces échanges seront enregistrés avec votre accord et moyennant votre signature. Il faudra donc que vous vouliez bien signer le document qui précise que vous déchargez des droits, j'imagine, c'est ça, hein ? Oui, voilà. Qu'on peut vous mettre en ligne. Voilà. Vous trouverez un enregistrement de ces échanges sur le site dans très peu de temps. Un dernier mot avant de laisser la parole à Gaëtan. Un dernier mot pour vous dire qu'il y a 5 ans, très exactement, jour pour jour, décédé notre collègue Alain Payeur, auquel nous avons dédicacé cette anthologie. Alain Payeur était maître de conférence à l'Université du Littoral, Côte d'Opale, ULCO. Il a été associé au début de notre projet. Il avait travaillé, il était très, très passionné pour ce projet, il s'y était beaucoup impliqué, et il a travaillé sur plusieurs textes, il en a donc post-mortem co-signé 2, je crois, mais de façon assez curieuse, le plus gros de son engagement portait sur la lecture et l'analyse d'un auteur dont nous pensions qu'il allait parler d'industrialisation. Et les derniers travaux, les derniers mots d'Alain Payeur, ça a été pour nous dire qu'en fait non, c'était peut-être pas de ce côté-là qu'il fallait chercher. Cet auteur, c'était Mandeville, vous savez, le célèbre Mandeville, Marx, les abeilles, etc. Eh bien, en fait, Alain avait cherché de ce côté-là, en essayant de remonter le plus loin possible dans l'industrialisation de l'éducation. Il n'avait pas trouvé là, mais nous avons beaucoup pensé à lui en travaillant sur cet ouvrage. Entre-temps, est également décédée une très grande amie du CIF et grande connaissance de beaucoup d'entre vous, Geneviève Jacquinot. Elle n'a pas pu prendre connaissance des commentaires que nous avons produits sur son texte, mais elle en savait un peu la teneur et dans les derniers jours, elle nous a dit qu'elle était contente de savoir que sa pensée survivait à travers des travaux comme les nôtres. Voilà. J'en ai fini, j'espère vous avoir un peu renseigné sur les orientations, nos attentes, et je donne la parole à Gaëtan.